Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Aujourd'hui, on va parler de l'après MrBeast sur YouTube, les éditeurs versus les archives de la culture et Amazon, oui Amazon, qui demande votre main en, presque en mariage. Bonjour à tous, c'est Patrick Béja, c'est le Rendez-vous Tech, c'est l'épisode numéro 526. Nous sommes en août 2023 et je suis très heureux de vous recevoir à nouveau dans cette émission avec mon ami de longue date qui est l'un des membres fondateurs du Rendez-vous Tech, Jeff Clavier, qui nous rejoint de la Silicon Valley. Bonjour Jeff, comment vas-tu ?
Salut mon Patrick, bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça fait super plaisir de vous retrouver parce qu'on a eu un petit hiatus de quelques mois parce que tu voyageais et puis moi aussi. Et donc, c'est toujours un plaisir de te retrouver. Et oui, et ça fait 526, damn.
526, bon, c'est disons 2009. On était, toi, moi et Yann, pour le premier épisode du Rendez-vous Tech. Est-ce que c'était celui-là, Obama Berry ? À l'époque, on disait que le pauvre Obama avait été obligé d'utiliser un BlackBerry.
Et j'avais réécouté cet épisode il y a 2-3 ans et je me fanais de l'iPhone 4 et de sa forme très spéciale et de toutes les fonctionnalités qu'il avait. J'adorais.
Ouais, ça nous rajeunit pas tout ça. L'iPhone 4 déjà
bah, 14 ans.
L'iPhone 4 en 2009 C'était 2000. Ah oui, peut-être qu'il commençait à être. C'est possible, oui, c'est possible. Ouais. Bon, en tout cas, on a des sujets très nombreux à traiter aujourd'hui. Donc, on va se lancer très vite parce qu'on a peu de temps, mais des sujets intéressants qui ne sont pas... Enfin, vraiment, les sujets principaux, ce n'est pas Twitter et ce n'est pas de l'IA. Donc, vous avez de la chance, si vous allez écouter cet épisode, c'est des sujets complètement...
Bah non, je vais pouvoir cracher sur Elon Musk.
Bon, on aura l'occasion après, vers la fin. T'inquiète pas. Je voudrais également remercier les auditeurs qui ont rejoint le groupe des Patriotes, Aurélien Dimeo, Cocolastico. Et oui, c'est lui. Vous pensiez que c'était peut-être un autre Astico, mais c'est Cocolastico. Il y a aussi Vincent Tesser et le Barbu Râleur. Je pense que c'est un fan de logiciels libres qui n'a pas apprécié que je dise dans l'un des épisodes de l'été que Linus Torvald était le créateur de Linux parce que j'ai occulté Richard Stallman, un péché capital dans certaines communautés. Je pense que le Barbu Râleur a voulu inscrire son pseudo dans les remerciements des Patriotes, rien que pour ça. Donc merci à vous tous, merci aussi aux producteurs de cet épisode, Stéphane Lioret. Et Lancelot Davizard, vous êtes tous mes super-héros de l'été et de la vie, puisque c'est vous qui faites vivre le rendez-vous jeu. Allez, on se lance tout de suite dans les infos principales de l'épisode. Alors, il y a deux camps maintenant par rapport au jingle. Il y a des gens qui me disent, mais il ne faut pas dire qu'on va dans les infos principales. Puis il y a des gens qui sont venus sur le Discord de la communauté, qui est le meilleur endroit d'Internet, comme vous le savez. J'ai fait un nouveau onboarding, un truc qui vous permet de choisir les salons que vous voulez, les alertes que vous voulez et tout. C'est super, le Discord. Mais il y a des gens qui sont venus pour me dire « Mais non, Patrick, il faut que tu dises la section dans laquelle on rentre, sinon on est perdu, on ne sait pas ce qui se passe. » Et donc, il y a maintenant une sorte de guerre qui est en train de se monter entre ceux qui veulent et ceux qui ne veulent pas l'annonce des sections, des changements de section avant le jingle. Donc, vous pouvez choisir votre camp. On fera un événement spécial à un moment. Comme, d'ailleurs, si vous appréciez les jeux de combat, le jeudi 24 août, juste après le rendez-vous jeu, il y a le plus grand événement de jeux de combat de l'été, la Note Patrick Community Cup. On est pour le moment plus de 4 à s'être inscrits. Donc, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord là aussi pour participer. C'est ouvert à tous, hein, et en particulier aux débutants. Il y a beaucoup de débutants dans la communauté. Donc, on va faire un petit tournoi marrant comme ça pour s'amuser. Et donc, je disais, le premier sujet, c'est le YouTube d'après MrBeast. Alors, vous avez peut-être vu des annonces du genre de celles que j'ai fait sur Twitter il y a quelques jours de ça. C'est une annonce où je vous parle de mon plus grand projet. Avec, pas une vidéo super produite, mais au moins des photos où j'ai le cœur, la main sur le cœur. Et je vous dis que j'ai créé mon premier podcast en 2006 et je suis passé pro en 2014 et j'ai eu mon premier enfant en 2018. Mais j'ai toujours gardé au fond de moi un rêve. Un rêve qui m'anime, qui me donne de la force. Et aujourd'hui, je veux réaliser ce rêve. Et là, vous imaginez la vidéo dans laquelle il y a des images de soleil couchant, quelqu'un qui regarde le lointain depuis une falaise, un YouTuber qui vous explique qu'il va gravir l'Himalaya, ou etc. Et moi, je vous explique que je vais perdre 5 kilos d'ici les fêtes en mangeant un petit peu moins. Donc, j'espère que vous serez là pour me soutenir. Mon projet est vrai. Mais le style, si vous suivez un petit peu YouTube, est, on va dire, gentiment pastiché de ce qu'on voit de plus en plus sur YouTube, c'est-à-dire des vidéos hyper méga produites pour YouTube, hein, avec des grosses émissions à concept. Et tous les YouTubers les plus populaires se mettent à faire ce genre de vidéos. Pourquoi ? Poussés par MrBeast, qui est le YouTuber le plus suivi du monde, il a quoi, 117 millions d'abonnés, quelque chose comme ça, et qui depuis quelques années, a vraiment transformé YouTube avec ses vidéos à lui et la manière dont il les fait, les vidéos, avec énormément de budget pour YouTube encore une fois, mais il fait des trucs du genre, tiens, je vais aller sur sa chaîne YouTube pour vous dire le type de vidéos qu'il fait. C'est des trucs, par exemple, 7 jours sur une plateforme au milieu de la mer. Une plateforme, une petite, un radeau, en fait, au milieu de la mer. Il est resté avec ses potes pendant 7 jours au milieu de la mer. Il a fait des enfants qui se battent, 1 à 100, qui se battent pour avoir 500 000 dollars. Il fait énormément de trucs avec de l'argent. Un billet d'avion à 1 dollar contre un billet d'avion à 500 000 dollars. Plein de trucs comme ça. Il a fait la plus grande tour de Lego avec, je ne sais plus combien, 10 millions de Lego. Enfin, que des projets comme ça, bizarres et un petit peu choquants parfois. Mais le truc qu'ils ont en commun, c'est que c'est hyper rapide, hyper produit et très ambitieux. Et ça, on en parle hein, de MrBeast, évidemment, depuis un certain temps, ça a vraiment influencé la manière dont YouTube fonctionne et ce que visent les gros YouTubeurs. Et on s'éloigne vraiment, pour ce type de production, de ce qui fait l'ADN de YouTube, qui a évidemment évolué depuis des années, mais là, il y a vraiment eu un coup d'accélérateur. La raison pour laquelle j'en parle, c'est que Numérama a fait un papier spécifiquement sur ce sujet que j'ai trouvé assez intéressant, et je pense que c'était justement le moment d'en parler parce que ça se concrétise. Je ne sais pas si toi, Jeff, tu suis beaucoup YouTube. Moi, je suis énormément sur YouTube, mais ce type de production, c'est pas forcément ma tasse de thé, je les regarde par sérieux professionnel de temps en temps, mais c'est pas forcément mon style préféré. Mais je me demande si toi, tu sens ce type d'influence dans YouTube aussi, ou pas du tout.
Alors, je crois que j'ai jamais vu une seule vidéo de MrBeast, et franchement, ça m'intéresse pas du tout. On a fait quelques investissements depuis très longtemps, en fait, dans le domaine de ce qu'on appelle l'influencer marketing, donc en fait l'utilisation de plateformes telles que MrBeast pour, en gros, créer des sociétés de médias parallèles, ce sont en fait les nouvelles sociétés de médias, soit des systèmes qui permettent aux influenceurs de monétiser donc leur audience en faisant des contrats avec des marques. Donc on est très intéressé par le sujet. Et en gros, les audiences, on les trouve... initialement, c'était effectivement Twitter, Instagram, YouTube. Maintenant, c'est plus TikTok. Y a plus de possibilités, en fait, de trouver son audience et de la fidéliser. Donc, Effectivement, c'est un truc super important. C'est une réelle industrie. Ce sont des milliards de dollars de budget marketing qui sont brassés chaque année. Donc maintenant, ça fait partie en fait de la façon de créer une marque et de la développer. Tu vois le succès de Kim Kardashian, où tu peux te moquer en fait des Kardashians, mais en tout cas au niveau business, ils savent ce qu'ils font puisque deux ou trois des sœurs sont milliardaires grâce à la monétisation de ce qu'elles ont fait.
Des influenceuses en fait. Ouais.
Tout à fait. Et donc, la question c'est comment tu fais pour t'imposer, comment tu fais pour avoir une énorme audience. C'est en faisant du contenu qui est à la fois original et un peu edgy, un peu bizarre. Mmh. Et c'est ce que manifestement MrBeast a très très bien fait. Après, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les boîtes de médias sont censées avoir un certain positionnement, elles sont censées avoir une certaine éthique, elles représentent des choses. Et lui, manifestement, il fait que ce qu'il pense intéressant pour construire, développer ou conserver son audience. Et donc, c'est des trucs un peu bizarres et c'est pas étonnant que ça dérape, quoi.
Alors, il y a effectivement des gens qui disent que ça dérape. Lui, il fait souvent ce qu'il appelle de la charité d'entertainment. On l'accuse de faire je me souviens plus du terme, mais il y a un terme, de faire du voyeurisme par charité, parce qu'il y a des vidéos où il donne beaucoup d'argent à des gens, où il aide, il paye des opérations pour des gens. On avait parlé de personnes qui retrouvent la vue, je crois. Bref, mais ce qui est vraiment intéressant à noter, c'est que toutes ces productions sont vraiment ambitieuses, effectivement. Et comme tu le dis très bien, il faut faire plus et plus marquant, je ne veux pas dire choquant parce que c'est un terme chargé, mais plus marquant pour sortir du lot. Et ça influence le reste de la plateforme. Pour ce type d'influenceur, ce type de gros YouTuber, et c'est marrant parce que ça concrétise un petit peu un truc dont on parle depuis le début de YouTube, c'est la manière dont YouTube peut venir concurrencer la télé. Évidemment, quand YouTube a commencé, c'était des gens dans leur chambre qui se filmaient avec leur webcam, puis ça avait évolué avec des gens comme Jérôme de Nowtech, par exemple, connaît bien ça, ça a évolué, surtout dans la qualité de production, avec la qualité de l'image, le nombre de caméras, ce genre de choses. Mais dans l'idée, on était relativement proche de ce qui se faisait depuis toujours sur YouTube. Aujourd'hui, avec ce type de production, on s'approche de ce que fait la télé cheap, la télé presque télé-réalité, on va dire, qui est la plus cheap à produire, mais il n'empêche quand même relativement proche de la télé. Avec MrBeast, on a passé un cap où YouTube commence à faire aussi de la télé, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. C'était des trucs uniquement sur YouTube, uniquement style YouTube. Là, ce n'est plus vraiment le cas. Donc, ça va être intéressant de suivre jusqu'où ça va aller. Ce que je note tout de même, c'est que cette tendance est additive par rapport au contenu qui existe déjà sur YouTube. Et c'est ça qui fait la richesse de la plateforme. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que ce contenu se met à exister que le contenu d'avant a disparu. Au contraire, moi, tout ce que je regarde sur YouTube, c'est généralement des gens devant leur caméra ou juste des gens qui parlent et qui illustrent leurs propos, qui parlent de tech, de jeux vidéo, mais de manière très, très simplement produite. Donc, c'est vraiment additif. Et ce n'est pas que parce qu'il y a ça, il n'y a plus le reste, quoi. Donc, bon, clairement, l'influence de MrBeast sur YouTube, à lui seul, c'est un type qui est intéressant, peut-être qu'on en parlera un jour, mais à lui seul, il fait bouger la plateforme. Un autre sujet dont on peut parler,
c'est aussi cette notion que tu disais, c'est plus uniquement en fait des gens derrière leur caméra. C'est l'évolution naturelle de cette notion d'expression où à partir du moment où tu as démontré que tu avais les moyens de produire, parce qu'en gros, qu'est-ce que font les boîtes de films ou les boîtes de séries télévisées, ils mettent en place des budgets parce qu'ils savent qu'ils vont avoir une certaine audience et qu'ils vont pouvoir monétiser. Et donc, à partir du moment où tu t'attends à avoir une monétisation à un niveau qui est monstrueux à cause de la taille de sa communauté, tu peux mettre les moyens qui sont en fait très similaires à une petite boîte de production, une boîte de production de taille moyenne. Ouais. Donc, c'est exactement la même chose.
Tout à fait, ouais. Et on a parlé des grands projets, genre j'escalade l'Everest. Il y a aussi des trucs plus modestes, mais encore une fois, concept et produit, comme des YouTubers qui vont se mettre ensemble et faire des sortes de dates avec des actrices qui sont là pour les jeter. Ça va être marrant et ça dure 45 minutes. Donc, il y a tout type de projets. Mais bon, c'est un changement qui, clairement, là encore, tu as tout à fait raison, qui est rendu possible par les audiences qui grandissent quoi, pour ce type de créateurs.
Et puis aussi le fait que les moyens de production sont vachement moins chers, beaucoup plus disponibles qu'ils n'y étaient, ne serait-ce qu'il y a 10 ans quand on a commencé. Quoi.
Tout à fait, ouais. Bon, parlons un petit peu des éditeurs contre l'Internet Archive. Alors, vous savez ce que c'est que l'Internet Archive ? C'est une association qui s'affaire à essayer d'archiver l'ensemble de l'Internet. Mais vraiment, l'ensemble de l'Internet. Et on peut aller sur la machine à remonter le temps de Internet Archive et retrouver n'importe quel site, ou presque n'importe quel site, et regarder son évolution à travers le temps. C'est vraiment fascinant. D'ailleurs, c'est l'un des projets qui me paraît extrêmement important pour le net et la tech, et je le soutiens depuis longtemps. Je lui envoie mes petits 3 dollars par mois. Et il y a eu un mouvement des ayants droit qui a visé à mettre des bâtons dans les roues de certains projets de Internet Archive. Alors, il y en a deux en particulier. D'une part, les éditeurs de livres ont voulu combattre un projet qui a été mis en place par l'Internet Archive pendant la pandémie, qui est un projet de prêt de livres, qui permet à n'importe qui d'aller prendre un livre, comme on peut le faire sur des bibliothèques en ligne, qui existent déjà, mais ils l'ont bien sûr mis en place pendant la pandémie pour permettre aux gens de continuer à lire. Et eux, ils disent qu'ils sont comparables à une bibliothèque, et les éditeurs, dont Hachette, mais d'autres aussi, ne veulent pas que ce projet continue. Là, on pourrait peut-être discuter de la validité du projet. Il y a aussi les labels de musique qui se battent contre le projet. Alors, comment il s'appelle ? Projet 78. Enfin, en gros, c'est un projet aussi de l'Internet Archive d'archivage des 78 tours. Et c'est des milliers d'enregistrements, des milliers et des milliers d'enregistrements qui sont disponibles au téléchargement. Là, il n'y a pas d'histoire de prêt, de machin. C'est vraiment disponible au téléchargement. Donc, je comprends un petit peu ce qu'ils ont dit dans leur démarche, d'autant plus que sur les enregistrements concernés par la plainte, ils sont 2700 à peu près, 2750, et ben ils disent ceux-là, ils sont disponibles sur les plateformes de streaming, donc il n'y a aucun danger de disparition pour ces enregistrements-là. Donc, ils veulent que l'Internet Archive les fasse disparaître de l'archive. Et oui, là, effectivement, ils sont disponibles en téléchargement. Il y a plusieurs questions qui se connectent là-dedans. La question du copyright et de la durée du copyright, parce qu'au bout d'un moment, normalement, les enregistrements eux-mêmes devraient être disponibles. Enfin, peut-être pas les enregistrements, je me demande s'il n'y a pas des droits qui sont différents pour l'enregistrement, enfin, pour la partition et pour l'interprétation, certainement. Mais bon, c'est des trucs très vieux, hein. Le 78 tours, ça a fonctionné jusqu'en 1950, je crois. Mais il y a donc d'une part la question du copyright, d'autre part la question de l'archivage du patrimoine culturel. Parce que l'une des motivations de l'Internet Archive, qui a différents projets dans différents domaines, c'est évidemment l'archivage et la conservation du patrimoine culturel, qui est un sujet qui se pose beaucoup dans le domaine du jeu vidéo également. Mais je me demande si là, on n'est pas dans une friction qui est naturelle. Je me demande, toi, bon, tu es dans des affaires des affaires financières et il y a des histoires de rentabilité et d'investissement et c'est pas juste qu'on va faire le business pour le plaisir. Qu'est-ce que tu penses de cette affaire, toi, du combat entre l'Internet Archive et les ayants droit?
Ouais, c'est un peu compliqué. Comme tu le disais, je suis super supportif du concept et du projet. J'ai rencontré Brewster Kahle, qui est le fondateur de l'Internet Archive il y a très longtemps. Et j'ai été en fait le visiter pour voir ses bureaux. Et puis c'était le moment où ils avaient commencé donc le projet où ils digitisaient tous les livres avec ce robot qu'ils avaient construit. C'était donc super, super intéressant. Et donc, d'un côté, tu as besoin d'avoir cette espèce d'archive qui va contenir toute notre histoire électronique. De l'autre côté, c'est vrai que tu peux pas utiliser ça comme une façon d'accéder au contenu qui est payant avec un bypass. C'est ce que tu fais d'ailleurs. Bien souvent, si tu veux avoir accès à un article que tu veux pas payer, tu vas aller chercher sur Internet Archive. ce qui est pas juste. Donc, j'aurais tendance à dire, il faut trouver un moyen d'accéder au contenu de façon peut-être, délayée, où tu peux pas y accéder pendant X jours ou X années, et c'est seulement si le contenu original disparaît que tu as accès. Je sais pas, il y a quelque chose à faire, mais c'est pas normal que cette fonction super importante que l'Internet Archive opère soit utilisé pour défrauder en gros des gens qui normalement feraient payer pour leur contenu.
Ouais, donc, je pense que
je supporte en gros l'un et l'autre quoi.
C'est ça qui est compliqué parce que le fait qu'ils archivent les choses, je pense que tout le monde sera pour, à part peut-être les ayants droit eux-mêmes, mais ils auront du mal à trouver du support ailleurs que dans leur propre profession. Le fait de l'archiver, c'est important. Le fait de le rendre disponible, c'est là que devient le problème. Mais en même temps, si c'est juste archivé pour être archivé, à quoi ça sert ? Il faudrait effectivement un moyen de, je ne sais pas, pouvoir les demander et tu les récupères deux semaines plus tard. Ou non, simplement le fait de savoir que ça ne va pas disparaître. Quoi. C'est ça qui est le plus important. Là, je suis sur leur plateforme, parce qu'on ne l'a peut-être pas dit assez clairement, mais ils archivent le web, des livres, des vidéos, de l'audio, du software, des images. Enfin, il y a énormément de choses. Je suis sur la plateforme vidéo. C'est hyper lent, ça ne fonctionne pas bien. Donc, peut-être que c'est ça. Il faut juste que ça soit hyper pénible d'accéder aux vidéos pour que ça soit acceptable. Et donc, on veut aller ailleurs pour vraiment les regarder. Mais moi, je n'ai pas de réponse non plus, comme toi. Je les soutiens parce que je veux que ce projet existe et continue à exister. La préservation est importante. Mais ils font un petit peu le travail des librairies, enfin des bibliothèques nationales, finalement, qui font ce travail aussi. Donc, peut-être qu'on pourrait se dire, est-ce qu'on a déjà plusieurs bibliothèques nationales dans différents pays ? Est-ce qu'on a besoin de l'Internet Archive aussi en plus ? Moi, je dirais oui, mais je comprends qu'on puisse dire...
Oui, parce que c'est pas disponible pour tous les pays, c'est pas disponible pour tous les contenus. Donc, c'est un projet fondamental que Brewster, en fait, avait lancé. Donc, son l'histoire, c'est il a vendu sa boîte à Amazon, il a fait un peu d'argent, et il a tout remis, en fait, dans l'Internet Archive, et puis bon, il a levé des fonds depuis. Donc c'est vraiment c'est une préservation du patrimoine culturel, du contenu, etc. Donc ça, c'est important. J'ai pas regardé en fait le dernier débat online. Donc comment est-ce que l'Internet Archive justifie sa position ?
La préservation. Essentiellement.
La préservation.
Ouais, ils disent essentiellement la préservation.
Mais... La préservation, ça veut dire qu'effectivement, tu dois rendre l'accès super difficile, super compliqué, ou que tu adoptes aussi un système de paiement. Parce que s'il y avait derrière des royalties qui passaient dans la poche des ayants droit, il n'y aurait pas de problème. Mais in fine, c'est le business... On en parlait là, les influenceurs en fait se rémunèrent sur la plateforme avec de la pub et avec des contrats de sponsoring. Si jamais ils avaient effectivement cette notion de je suis comme un Netflix, je suis payé en souscription, ils auraient besoin de préserver ça aussi quoi.
Ouais. Bon, donc voilà la question qui se pose aujourd'hui sur ce sujet. Le troisième sujet important dont je voulais vous parler, c'est le fait qu'Amazon vous demande votre main en mariage, disais-je en plaisantant. De quoi s'agit-il ? On a déjà parlé dans l'émission. Il y a deux choses. Amazon, en fait, est en train de réduire le packaging aux États-Unis en test pour accélérer les livraisons et économiser de l'argent et à utiliser moins de ressources, ce qui, du coup, plaît à tout le monde, je pense. Mais du coup, ça veut dire qu'on peut avoir des trucs. Quand le paquet du produit est déjà possible à transporter et il est approprié, ben, ils ne mettent pas un paquet en plus dessus. On a tous eu une commande Amazon avec un tout petit truc dans un carton énorme. Bon, ben, ça n'arrivera plus après ce test, normalement, quand ça sera implémenté. D'un autre côté, si vous commandez une télé, eh ben, votre télé, elle peut arriver dans son paquet d'origine et être déposée sur le pas de votre porte. Je ne sais pas si c'est la meilleure solution. Bon. Mais ça, c'est un sujet. L'autre qui est beaucoup plus important, c'est donc Amazon One. Oui, c'est juste Amazon One, dont on avait déjà parlé, qui est une technologie de reconnaissance de la paume de la main. Ça veut dire qu'ils ont une technologie qui permet, en passant votre main sur un écran, enfin sur un appareil, la paume de votre main, eh ben elle peut vous reconnaître et ensuite associer donc à votre compte votre paume directement. Et donc, ça peut servir pour énormément de choses. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que d'ici la fin de l'année, ils devraient implémenter le système Amazon One dans tous leurs magasins Whole Foods, dans plus de 500 des magasins Whole Foods aux US, mais les ambitions sont beaucoup plus grandes. En fait, l'ambition est d'avoir un moyen de payer, de se faire reconnaître dans le magasin et de payer, donc de s'identifier, d'avoir tout plein de choses, simplement avec sa main, donc avec quelque chose qu'on a toujours sur soi, qui est plus facile que l'empreinte digitale, qui est plus facile que l'iris, qui est plus facile que la reconnaissance de visage ou reconnaissance vocale. La main, ça fonctionne bien. Il y a des millions de vérifications qui ont été faites avec aucune erreur d'une personne par rapport à l'autre. Certaines fois, c'est arrivé une fois de temps en temps que la personne soit pas reconnue, mais il n'y a pas eu d'erreur, ce qui est très important, évidemment. Je comprends l'idée d'Amazon, parce que, comme ils le disent, on a énormément de moyens de s'identifier en ligne, mais en physique, enfin des moyens numériques, y compris en ligne, mais en physique, on n'en a pas vraiment, il faut toujours qu'on ait un truc avec soi. Et moi, l'idée de me dire, bon, ben, c'est juste moi et j'ai la paume de ma main et je peux, du coup, m'identifier dans le magasin, il me reconnaît, il sait ce que j'aime, il me propose des trucs. Et en plus, ben, je peux payer directement avec la main. Vu comme c'est pratique de payer avec le sans contact, et je pense que tout le monde se souvient qu'on se disait, ben, les cartes sans contact et même le téléphone pour payer ou la montre pour payer, oh, ça va, on peut mettre la carte dans le lecteur, taper son code, ça prend 2 secondes, c'est pas si chiant. Et tous ceux qui ont utilisé le sans contact sont complètement séduits par le sans contact et se disent, bon, ok, je veux pas revenir à mettre ma carte, c'est pénible d'avoir à passer 10 secondes à faire son code, enfin. Et donc, je me dis, peut-être que la payer avec la paume de la main, ça pourrait être équivalent, et je comprends l'idée. D'un autre côté, évidemment, il y a la question de la sécurité, ou plutôt la sécurité des données, les problèmes de vie privée qui se posent, comme avec les empreintes digitales, l'iris ou la reconnaissance faciale, les problèmes de sécurité, pas de sécurité, mais de données et de vie privée, parce que bah, la main, on ne peut pas en changer, donc une fois qu'elle est dans le système, on est dans le système, quoi. Et je ne sais pas. Je me dis, il faut être prudent. Donc, dans mon idée, la prudence devrait gagner. Et je dirais qu'il faut, d'une part, être certain qu'on peut absolument supprimer ces données si on le souhaite, avec des grosses amendes pour ceux qui le font s'ils ne suppriment pas, avec des contrôles. Mais d'un autre côté, je me demande si ça ne serait pas pratique, quoi. Jeff, toi, est-ce que... Alors, deux questions. D'une part, toi, personnellement, est-ce que tu serais prêt à l'utiliser ? Et d'autre part, est-ce que ça te paraîtrait être un bon projet de business ? Est-ce que tu penses qu'il y a une vraie opportunité, là, d'apporter de la valeur, quelque part, avec un projet de ce type ?
Je ne suis pas convaincu. Et en fait... tu vois, j'ai ce truc dans mon Whole Foods où je vais tous les dimanches Je pense qu'ils ont installé ça il y a 2 ans maintenant. Mmh. Et à chaque fois que je le vois, je me dis, tiens, il faudrait que j'essaye. Parce que bon, bah, je suis un early adopter, donc il faudrait que j'essaye. Mais j'ai jamais trouvé que passer le temps de faire le setup, donc l'initialisation du process, du machin, pour scanner ma main, je sais pas combien de temps ça prend, mais aujourd'hui, quand je passe à la caisse, je scanne mon code barre Raw Foods ou Amazon et je paye avec ma carte. Et tu vois, même si j'ai le truc sans contact sur mon téléphone, je paye avec ma carte. Donc, ça me prend tellement peu de temps que le fait de me poser la question comment je fais le setup de ce truc, parce que c'est rigolo, il faudrait que j'essaye, je ne l'ai jamais fait. Parce que j'ai toujours aux choses à foutre. Et donc, oui, effectivement, tu as un problème de sécurité, de privacy, etc. Mais bon, je pense que Amazon a bien fait son boulot, ils savent ce qu'ils font, donc j'ai pas de soucis de ce côté-là. C'est plus, j'ai pas encore eu... Et en fait, Amazon n'a pas vraiment... Tu vois, ils ont pas dit, enregistre tes données, je te donne 10$ de crédit chez Whole Foods, et je pense que pour 10$, je le ferai probablement. Je sais pas quel est mon prix, c'est pas 1$, mais je sais pas, pour 10$, hein, ça fait un pain gratuit, un truc comme ça. Et donc, je suis pas sûr que tu aies un tel changement, tu vois, d'expérience de check-out que ça vaudrait le coup. Mais maintenant que tu me poses la question, je pense que je vais essayer de le mettre en place. Ça sera un peu trop tard pour l'émission, mais au moins j'aurai un point de vue. Parce que j'ai jamais vu quelqu'un, je ne fais pas vraiment attention, mais j'ai jamais vu quelqu'un l'utiliser, tu vois. Alors que ça fait quand même, je veux dire, j'y vais tous les dimanches. Donc, plus de 50 fois par an, et j'ai jamais vu quelqu'un l'utiliser.
J'imagine que Amazon veut insister parce que du coup, ça leur permet de transformer, ça leur donne un autre moyen de rentrer dans les données, les moyens de paiement, etc., au lieu des autres moyens qui sont le téléphone, qui sont évidemment trustés par Apple et Android et Google. Bon, on verra si ça prend. Je suis curieux. Mais d'ici
parce
à ce que...
De toute façon, est-ce qu'ils ont dit que tu aurais après une application sur le téléphone pour faire le même scanning de ta main pour les applications, pour le paiement le téléphone?
Non.
Parce que si c'est juste dans les points de vente Amazon, je dirais ils sont quand même relativement réduits. Donc c'est là où je me suis jamais vraiment posé la question, mais je me suis toujours dit... Pourquoi ils font ça? Parce que Amazon, c'est pas des idiots, et donc généralement, ils ont le plan à 1 an, à 3 ans, à 10 ans. Et quel est le plan à 10 ans de ce truc, quoi?
J'imagine que c'est de l'implémenter partout, y compris dans des magasins non Amazon. Donc tu vois, du coup, c'est eux qui gèrent le système, qui ont l'accès aux données, aux mains de tout le monde. Donc c'est eux qui ont les comptes. Et si tu te mets à utiliser
ce système...
Donc
ça devient un terminal de paiement.
Terminal de reconnaissance de main dans d'autres magasins également. Si tu peux aller n'importe où et payer avec ta main, je pense que c'est ça qui vise. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que avant qu'il n'y ait tellement de fonctionnalités avec ce truc que tu n'aies plus besoin de ton téléphone, c'est pas demain la veille du tout. À mon avis, tu auras toujours besoin de ton téléphone. Et donc, si... tu as besoin de ton téléphone, pourquoi tu n'as pas besoin de ce truc non plus? Je veux dire, tu peux le faire avec le téléphone, donc il n'est pas indispensable. Mais peut-être, qui sait? On verra. Bon.
Ce n'est pas demain la veille. Non, mais c'est intéressant, mais parce qu'effectivement, le marché des terminaux de paiement est gigantissime, mais c'est du low margin, c'est problématique, Mais bon, d'un autre côté...
Non, mais c'est pour avoir les données. Tu vois, Amazon, s'ils ont ce type de données, c'est l'Eldorado.
Tu as les infos, puis bon, une fois que tu es dans le check-out, il y a beaucoup de potentiel. Mais bon, je me rappelle, quand ils ont annoncé qu'ils se lançaient dans le système donc, d'offrir Amazon Web Services, j'avais réagi en disant « What the hell are they doing ?» Et donc, bon, ça aurait du sens, effectivement, mais c'est... C'est pas simple, quoi.
Eh bien, écoutez, ça va être tout pour nos gros sujets du jour. Et avant de passer au petit sujet du jour, je voudrais vous rappeler que si vous appréciez l'émission, vous pouvez la soutenir sur Patreon, patreon.com/rdvtech, dont le lien est dans les notes de l'émission. Quand vous écoutez cette émission et que vous apprenez quelque chose, que vous rigolez sur une formidable blague, un calembour d'une qualité incroyable, par exemple, eh ben dites-vous que c'est du contenu qui prend du travail, des efforts à faire, et que, comme un petit peu tout le monde, on a besoin de sous pour continuer à le faire. Moi, c'est mon métier. Et donc, j'aimerais vous encourager, si vous le pouvez, évidemment, si vous ne pouvez pas, c'est pas une question, mais si vous le pouvez, j'aimerais vous encourager à réfléchir à l'idée de soutenir financièrement l'émission. Je sais que pour certains, ça peut être quelque chose d'un petit peu bizarre, de se dire, j'ai un podcast gratuit, pourquoi est-ce que, même il y a de la pub, tiens, pourquoi est-ce que j'irai donner des sous mais c'est une démarche qui est importante et vraiment sans laquelle l'émission ne peut pas exister. Donc voilà, si vous écoutez, si c'est la première fois que vous écoutez, je ne vais pas vous embêter, mais si vous écoutez depuis 6 mois, 1 an, dites-vous que ce travail que vous appréciez, j'espère, il est substantiel. Donc, patreon.com/rdvtech, vous pouvez aller regarder ce que vous obtiendrez. Il y a des petits bonus sympathiques, mais surtout l'initiative de soutenir ce travail. Donc, allez y jeter un coup d'œil et je vous en remercie tous et toutes d'avance.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Là, j'ai fait une fois pour le premier jingle en expliquant et la deuxième fois sans expliquer. Donc, vous voyez, tout le monde est content normalement. Je pense que c'est comme ça que ça marche. Quand on fait un petit peu de tout pour satisfaire tout le monde, c'est pas que personne n'est content, c'est que tout le monde est content. Hein. On est d'accord, c'est évidemment comme ça que ça fonctionne. Quelques petites news donc pour conclure l'émission. D'abord, l'État de Californie a autorisé les véhicules Waymo et Cruise à rouler dans San Francisco 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et si vous vous demandez ce que sont les véhicules de Waymo et Cruise, c'est spécifiquement les véhicules sans conducteur. Donc on parle vraiment de robotaxis complètement autonomes, sans conducteur, qui sont désormais autorisés dans tout San Francisco. Et du coup, je me demande un petit peu, d'abord, je serais curieux de savoir si, Jeff, tu en as déjà utilisé, à quel point on peut les voir, parce que j'imagine qu'ils étaient en test au moins. Mais je me demande également si on n'est pas arrivé discrètement à un niveau de sophistication des véhicules autonomes qui fait qu'ils sont utilisables. Parce que, alors peut-être que ça va durer 6 mois et qu'après, il y aura tellement de problèmes qu'ils vont arrêter, mais je n'imaginais pas qu'une grande ville comme San Francisco autorise l'exploitation commerciale de véhicules autonomes, totalement autonomes, sans conducteur, de cette manière. Parce que pour moi, je me disais, mais on n'y est pas encore, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Tu as déjà utilisé ces véhicules ?
Non, parce que je passe très peu de temps à San Francisco. Dans San Francisco, et en fait... Ouais. Il faut que je le fasse parce que en gros il faut que tu utilises un système de réservation spécifique, celui de Waymo, celui de Cruise, et ils vont t'envoyer donc un robot taxi, c'est gratuit. Donc il y a un bon impératif commercial pour le faire parce qu'ils ont besoin en fait de tester. Alors c'est pas l'État de Californie, c'est la ville de San Francisco. C'est le comité en charge des transports qui a voté pour l'expansion en fait du programme, puisque ça fait maintenant plus d'un an que on a un programme de test qui était un peu à périmètre limité. Avant, c'était dans certaines parties de San Francisco. Après, c'est tout San Francisco. Alors, il y avait un énorme débat autour de est-ce qu'on est prêt ? Et la réponse, c'est non, on n'est pas prêt. Et donc, c'est très honnêtement, étant donné que San Francisco est quand même toujours super en avance, mais aussi assez conservateur, je pensais que les détracteurs du non, enfin les détracteurs du projet, les gens qui disaient non, faut pas le déployer, allaient gagner, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de situations où les voitures qui n'ont effectivement pas de chauffeur se retrouvaient au milieu de la circulation dans des cas où les algorithmes n'avaient pas prévu la situation, et en gros, elles étaient plantées, et ça bouchait
Ils se bloquent et ça crée un embouteillage énorme. Ouais.
Mais surtout, ça empêchait, dans un cas, ça empêchait l'accès aux véhicules de pompiers et de police, l'accès à, je ne sais plus si c'était un feu ou si c'était un shooting, un truc comme ça, mais en tout cas, c'était une situation qui était vraiment pas cool. Et donc, tu avais une voiture Waymo ou Cruise qui bloquait toute la scène. Donc, on est bon jusqu'à ce qu'on tombe dans ces cas... qui sont soit pas prévus, les cas d'exception, ou en gros, l'algorithme, il sait pas trop quoi faire. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est faire des milliards de kilomètres de manière à ce que quasiment toutes les situations possibles et imaginables sont rencontrées. Et donc, l'ordinateur, l'intelligence artificielle derrière le programme, sait quoi faire. Et donc, on a eu des cas où... la voiture s'arrêtait et créait un embouteillage. On a eu le cas où les voitures écrasaient des animaux parce que ils ont du mal à détecter donc un chien qui va traverser et donc l'humain il va peut-être réagir mais la voiture elle va pas réagir. Et donc on n'y est pas encore. Je pense que j'ai plein de copains qui ont l'expérience. C'est super marrant, mais aussi tu te chopes les boules parce que tu te retrouves dans une voiture où t'as personne. Et tu te dis, mais est-ce que tu vas t'arrêter au bon moment ? Et grosso modo, ça se passe très bien jusqu'au moment où tu tombes dans le cas où l'ordinateur ne sait pas quoi faire et soit il fonce dans le tas, soit il s'arrête. Et donc, je pense que ça fait partie du progrès et malheureusement, t'as des milliers de gens qui meurent dans des accidents et tu vas avoir des gens qui vont mourir dans des accidents de robotaxi.
Donc c'est vraiment c'est le test qui continue en fait. C'est l'exploitation, quand j'ai dit commercial, ça continue, j'imagine, à être gratuit du coup, comme tu le disais, pour...
Alors ça, je sais, ça j'avoue ça, que pas, c'était, okay. C'est une bonne question, j'ai pas... Parce qu'à un moment ou un autre,
il va falloir...
Aujourd'hui... Waymo, donc c'est Google, donc Google accumule des tonnes de données et donc il y a une grosse valeur à ça. Cruise, c'est la même chose, ils ont besoin en fait de rouler pour que le système soit fiable, mais je sais pas combien de temps, ils ont déjà dépensé des milliards et des milliards dans le truc. À un moment, il faudra qu'ils soient ils puissent commercialiser, et à ce moment-là, ça deviendra des compétiteurs de Uber et Lyft, parce que ils n'ont pas besoin de payer le chauffeur, et donc ça veut dire qu'ils seront super compétitifs. Mais tu vois, autant dans San Francisco je veux essayer un Cruise ou un Waymo, mais par exemple moi quand je vais à San Francisco, les rares fois où j'y vais, parce que maintenant j'y vais qu'une fois par mois, je prends toujours un Lyft ou un Uber de manière à travailler dans la voiture. Et aller à 80 sur l'autoroute avec un robot taxi, ma cache. Hein.
Non, merci. Ouais. Pas pour moi. Alors, je te confirme que certains parlent de début de l'aventure commerciale, mais sans préciser s'ils vont commencer à faire payer ou pas. En tout cas, c'est le cas de Waymo. On imagine que ça va arriver à un moment, comme tu le dis. Mais j'imagine aussi que ce genre de véhicule peut être adapté à certaines situations et pas à d'autres. En l'occurrence, rouler dans San Francisco, ça va si tu dépasses pas telle vitesse. Mais oui, je pense que personne encore à ce stade prendra le risque d'aller sur l'autoroute, juste pour le cas où ça pourrait poser un problème. Il y avait un autre article qui était rigolo, qui parlait de ce que les gens font dans ce type de véhicule, où il n'y a aucune surveillance, en quelque sorte. Et il parlait, c'était un article du San Francisco Standard, où la journaliste parlait à des gens qui utilisent des Waymo et des Cruise et qui vont coucher dedans, enfin qui vont coucher ensemble dedans. Ils disent, vous savez, on rentre dans un truc après une soirée, voilà, et ben il y a personne pour nous dire non, donc c'est pas à chaque fois non plus, mais c'est marrant, ça pose la question de ce qu'on peut ou ce qu'on ne peut pas faire dans ces véhicules quand il y a personne pour nous regarder, tu vois, c'est marrant aussi. Donc,
Personne pour nous regarder, je suis sûr qu'il y a des caméras dans tous les sens. Hein.
C'est, et puis il y a des gens à l'extérieur aussi, t'es quand même dans la rue, mais bon, c'est marrant quand même. Apple va normalement faire sa conférence de présentation de ses nouveaux produits de la rentrée, c'est-à-dire l'iPhone et plus, le 12 septembre, donc dans un petit mois. La chose qui semble avoir... Il y a plein de choses sur les iPhone 15 que je vous évite, que je vous épargne, mais une chose intéressante à noter, c'est que, semble-t-il, il y aurait une nouvelle Apple Watch qui serait prévue. Un redesign important de l'Apple Watch qui serait prévu, non pas pour cette année, mais pour l'année prochaine, avec la Watch 10, la Watch X, comme il y avait eu pour l'iPhone 10. Et donc, peut-être que ce n'est pas le moment d'acheter une nouvelle Watch, ou d'acheter une Watch tout court. Et peut-être qu'il vaut mieux attendre donc 2024 si vous voulez renouveler votre Watch. Ça vient de Mark Gurman, qui généralement est assez bien informé de ces sujets. Sur Twitter, enfin sur X, ils ont commencé à rémunérer les créateurs et il y avait un créateur, alors attendez que je retrouve le nom du compte que vous avez peut-être vu passer, qui s'appelle Alerte Info. Alerte Info, c'est un compte qui reposte des infos de médias. Il dit que c'est des infos sourcées. Le problème, c'est qu'il reposte généralement l'info résumée dans le tweet avec une photo, mais pas de lien vers la source d'où ça vient. Donc, il mentionne la publication dont ça vient, mais il ne met pas de lien là-dessus. Parfois, il met le lien en deuxième tweet, mais pas dans le premier. Et il a donc été rémunéré, la personne a été rémunérée, $7,000. Il y a quelques jours de ça, et donc ça a provoqué un petit peu l'émoi de la profession, parce que il se dit c'est quand même terrifiant que, enfin les gens se disent c'est terrifiant que juste en repostant de l'info sans mettre la source, bah on puisse se faire autant d'argent. Et Guillaume Champeau, qui est un ancien de numéro, enfin il est passé par plein d'endroits, il était dans l'émission à plusieurs reprises, a fait une petite explication que j'ai trouvée assez intéressante, en disant d'une part, alors c'est vrai qu'il faudrait ajouter le lien, il dit, il le concède, mais il dit d'autre part, bah, c'est un travail de revue de presse. Est-ce que c'est si différent du travail qu'on peut, de revue de presse qu'on peut faire dans la presse, dans la radio par exemple, ce genre de choses? Le travail est jugé utile, il dit, puisqu'il y a 320 000 personnes qui suivent le compte. Il y a un travail de curation qui est important. Il travaille énormément, il passe beaucoup de temps. Et il ne faut pas oublier que... Ensuite, il n'y a pas de droit d'auteur sur une information brute. L'information elle-même, tu n'as pas de droit d'auteur. Elle peut être prise par n'importe qui. Et d'autre part, ça représente, c'est 7 000 euros, c'est 5 mois de travail. Donc, ce n'est pas non plus qu'il a eu 7 000 euros pour un mois de travail. Donc, ça relativise un petit peu tout. Moi, je trouve que le premier point qu'il soulève, qui est celui d'indiquer la source, est le plus important. Et au final, c'est la seule véritable demande des gens sur ce genre de truc. C'est qu'il faut mettre la source. Tout le reste, bah, je pense que tout le monde sera d'accord avec ce que dit Guillaume. Mais il lève quand même des points intéressants sur le fait que bah, c'est une revue de presse. Moi, finalement, je fais une revue de presse. Je ne mentionne pas à chaque fois les sources. C'est juste que je parle de l'info, qui n'est pas copyrightable. Mais j'essaye de mentionner les sources régulièrement, mais je ne le fais pas tout le temps. Et puis, je n'ai pas des liens vers tout, même s'il y a la newsletter où je mets certains liens, etc. Mais surtout, ce qu'il faut noter aussi, c'est que je crois, ça je ne le sais pas, mais je crois que l'une des raisons pour lesquelles il ne met pas de lien dans le tweet initial, c'est qu'il ne veut pas... que ça lui fasse du mal au niveau de l'algorithme. Parce que quand on met un lien externe à Twitter, eh ben la portée du tweet est réduite au niveau de l'algorithmie. Et donc, il est moins montré. Et bon, vous savez ce que ça veut dire, l'algorithmie. Donc, c'était un petit, une petite mise au point que j'ai trouvée intéressante sur ce sujet-là et sur le sujet des comptes qui, disons que parmi les comptes qui veulent avoir autant de portée que possible, je pense que celui-ci n'est pas le pire. Il y a beaucoup de choses qui font du buzz, du clash, ce genre de choses. Même si j'avoue que j'aimerais bien qu'il remette l'info, enfin qu'il remette le lien dans son tweet aussi, pas juste mettre le nom de la publication. Et l'autre sujet Twitter important, c'est le fameux combat entre Musk et Zuckerberg, qui semble-t-il, alors j'en avais pas parlé la dernière fois, Musk continue de gesticuler et Zuckerberg a posté il y a quelques jours, ou un ou deux jours, un message sur Threads, bien sûr, pas sur Twitter lui-même. Il dit, bon, je crois que maintenant, on peut conclure que Musk n'est pas sérieux. Je lui ai proposé une date. Dana White, qui est un... Bref, Dana White a proposé de faire un vrai, une vraie compétition pour une cause charitable. Elon Musk ne donne pas de date, ne donne pas de... Il dit qu'il doit avoir une opération chirurgicale. Puis maintenant, il dit qu'il veut faire un round d'entraînement chez moi. Enfin... Bref, si un jour il veut être sérieux, bah je suis ouvert, on a la date. S'il veut pas, bah moi je vais continuer à pratiquer ce sport avec des gens qui sont vraiment intéressés sérieusement. Et Robert Evans, qui est un journaliste, a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit, c'est pas que Mark est plus normal maintenant, Mark Zuckerberg, c'est qu'il est la première personne qui a autant de puissance de médias que Elon Musk a le traité comme il devrait être traité, c'est-à-dire comme un charlatan.
Comme un clown.
Comme un clown. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça assez judicieux. Enfin, assez judicieux.
C'est l'homme le plus riche du monde qui a aussi maintenant un haut-parleur qu'il contrôle et donc qui raconte tout et n'importe quoi. Il a un avis sur tout et n'importe quoi. C'est un réel danger pour la démocratie et pour notre monde parce que il raconte que des conneries, quoi. Je suis vraiment passé d'un fanboy où j'étais vraiment super impressionné par ce qu'il avait fait avec Tesla et SpaceX. Quand il a acheté Twitter, je me suis dit, c'est une connerie, qu'est-ce qu'il fout? Et là, ce qu'il fait, c'est abominable. Et la plateforme est maintenant devenue abominable. Moi, je vois maintenant... Je ne sais pas comment ils ont tweaké leur algo, mais maintenant, je n'ai que des horreurs de la partie droite que je veux pas voir qui débarque dans mon fil, et c'est une abomination. Donc il est super dangereux parce qu'il contrôle en fait les médias dans l'autre sens. Il disait je suis là pour protéger le free speech, mais non, c'est pas ce qu'il fait. Et donc toutes ces conneries moi je voudrais bien qu'il y ait ce combat parce que je pense que Marc va lui mettre un pain, parce qu'il est beaucoup plus en forme que Musk.
Ah bah, il fait du...
Et donc, ce serait un delight de le voir se faire prendre une dérouillée.
Je ne sais pas si je souhaiterais du mal physique à Elon Musk, alors que si c'est lui qui veut faire le combat, pourquoi pas. Mais
bah, personne ne le force à aller...
Je suis arrivé au point, je ne vais pas dire de saturation, mais je suis arrivé à un point où je vais être plus discernant avec ce dont je parle quand je parle des actualités Twitter. Parce que je lui ai donné le bénéfice du doute pendant... Enfin, même pas le bénéfice du doute, mais j'ai pensé que c'était important de parler de toutes ces choses pendant longtemps. Et trop longtemps, je pense, même si ça me posait un problème interne. Et je crois que là, je vais commencer à limiter. C'est pas qu'on va plus en parler, mais on va limiter un petit peu plus parce que je pense que Zuck et Evans, et tous ceux qui l'ont dit avant, mais c'est quand même l'actualité, donc je me devais d'en parler. Mais là, même moi, j'arrive à mon niveau où je me dis, bah, même si c'est de l'actualité, c'est un charlatan, il n'est pas sérieux sur ces trucs-là. Il fait des trucs pour avoir de la portée médiatique. Et c'est un mauvais calcul, parce que ça marche pendant un moment. Mais au bout d'un moment, les gens en ont marre et vont arrêter. Moi, je suis à ce stade, même moi, pour qui Twitter est une plateforme très importante, et ce que fait Musk et a une influence, bah, même moi, j'arrive à un stade où je trouve que ça suffit.
Mais donc, là, tu te demandes s'il a pété un câble ou pas, parce que c'est du grand n'importe quoi. C'est, le mec, il a besoin d'une séance de décompression avec son, avec son psy, hein, parce que ça ne va pas là-haut.
Il est accro à l'attention, quoi, je pense. Bref. On a des infos selon lesquelles Apple, Samsung, Nvidia et Intel pourraient investir dans ARM avec l'IPO. Avec la mise en bourse, et ARM, vous savez, ils sont à la base de tous les processeurs mobiles et même plus que mobiles aujourd'hui. C'est eux qui font les designs. Donc, c'est SoftBank qui va les mettre en vente. Ça serait la meilleure solution. Si tout le monde investit un petit peu, je pense que ça serait bien parce que comme ça, c'est le Mexican standoff et personne ne peut faire du mal à personne parce que ARM est trop important dans le monde de la tech pour que ça soit une société qui le contrôle, je pense. Et puis, on va conclure avec un petit peu d'IA quand même, avec un projet de Tales Audio, dont vous vous souviendrez peut-être qu'il avait fait Patrick Béger, une reproduction de Patrick en Patrick Bogos. Et il a fait en fait un épisode, il a une série qui s'appelle Les Streamers des Dômes, et l'épisode 3 vient de sortir. Il a utilisé, avec mon autorisation bien sûr, ma voix pour créer un des petits personnages qu'on entend au début. Je vais vous faire écouter un petit peu ce que ça donne. C'est d'une qualité vraiment impressionnante, pas juste pour l'IA, mais il a travaillé... Alors attendez, je vais... Vous entendez, j'espère ? Non, vous entendez pas.
Non.
Je dois faire
comme ça.
Ce
qui se tramait.
Allez, bougez-vous !
À vos ordres.
Pendant ce temps... L'homme qui avait libéré le petit avait repris sa place parmi les rangs des gardes, dissimulant habilement sa trahison.
Je rentre dans le circuit de ventilation.
Son chef s'approcha de lui, la rage dans le regard.
Et toi, bon à rien, vérifie un peu les systèmes de sécurité. On va quand même pas laisser les alarmes désactivées toute la nuit.
À vos ordres.
L'homme hocha la tête et se dirigea vers le panneau de contrôle, dissimulant la satisfaction qui dansait dans ses yeux. Il savait
que c'est vraiment impressionnant, c'est qu'il a
quelques
produit passé, tout ça.
Mais Mina restait évasive.
Bon. Avec
bon,
des
Echo,
moyens.
Reste avec Mina, s'il te plaît. Je vais me débrouiller toute seule cette fois.
Hé, hey, t'es sûr que ça va aller ?
Ouais, t'inquiète pas.
Mina, malgré sa faiblesse, posa sa main sur celle de l'Iris. Et... Maigre et tatoué, s'approche dangereusement de l'Iris.
Et là où c'est intéressant, c'est qu'il a réalisé ce truc, cet épisode dure 40 minutes, même plus longtemps, avec... des acteurs, voix, des gens qui connaissent, et de l'IA. Et le mélange ne se remarque pas du tout. C'est vraiment impressionnant, c'est un travail qui est admirable, remarquable. Moi, je trouve que c'est vraiment un boulot plus que professionnel. J'adorerais lire des audiobooks avec ce genre de dramatisation, même si là, je m'imagine que 40 minutes, ça lui a pris des mois. Donc, sur un livre entier, ça serait compliqué. Mais la qualité est folle, et surtout, cette utilisation de la technologie de l'IA est indiscernable, et ça lui a permis à lui de faire des voix qu'il ne pouvait pas faire, des voix d'enfants, par exemple, qu'il a fait lui, mais qui ont été reproduites par IA sur sa voix à lui, avec une sorte de deepfake audio, etc. etc. Donc, c'est Tales Audio, c'est sur talesaudio.com. Je vous encourage à y jeter un petit coup d'œil, et elle sera sur YouTube à un moment, avec des illustrations faites par IA aussi. Je vous en reparlerai à ce moment-là.
Et on commence à voir la commercialisation en fait des technologies de deepfake. J'ai une de mes boîtes qui a lancé un produit en bêta là. C'est en gros, tu peux faire de la customisation de messages marketing. C'est pour le monde du software où tu vas dire voilà en gros le message que je veux donner à ce client en particulier. Et en gros, ça prend ton historique de vidéos, donc audio, vidéo, et ça crée en fait des deepfakes qui te reprennent toi et en gros, la librairie de sons et de vidéos et de postures que tu as, et ça crée en fait une vidéo complètement custom pour un client donné.
Donc, c'est-à-dire
c'est
que ça va créer une vidéo
un deepfake
différente
marketing.
Pour chaque client en fonction de... Ah oui, c'est ça, d'accord. Ouais, c'est hyper intéressant parce que du coup, tu n'as pas besoin d'enregistrer 1000 messages différents pour les adapter à tes différents clients.
C'est un deepfake marketing, quoi.
Ouais, et ça commence effectivement à arriver.
Et ça va, et ça devrait marcher de folie parce que bah ça permet de, ça coûte beaucoup moins cher et puis ça permet de personnaliser le message.
Ouais, et de créer une variété qui est pas possible si tu dois enregistrer chaque message quoi.
Exactement.
Ouais. Très intéressant. On continuera à suivre ça évidemment. Mais pour aujourd'hui, c'est la fin de l'épisode. Merci beaucoup, Jeff, d'avoir été avec moi, comme tous les mois. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver ? Alors, d'habitude, tu dis Twitter. Je ne sais pas si tu as encore le cœur à...
J'ai toujours pas résolu ce... Est-ce que je quitte la plateforme ou pas ? Donc, je suis toujours Jeff à JFF sur Twitter/X. Et je suis Jeff Clavier sur Threads, mais j'ai encore rien posté sur Threads. Donc, j'ai pas... J'en ai marre d'Elon Musk, mais je n'ai pas encore pris la décision ultime de quitter.
C'est tout le problème qu'on se pose tous. Malheureusement, Threads n'est pas dispo en Europe. Ils ont même coupé les gens qui utilisaient des VPN. Donc vraiment, les comptes basés en Europe ne sont pas dispo et on ne peut pas utiliser l'application. Moi, je suis sur Mastodon aussi, sur Blue Sky aussi et sur Twitter, évidemment. Et vous me retrouvez sous le nom de Note Patrick. Vous retrouvez également notepatrick.com où j'ai tous les liens vers tout ce que je fais. Le Discord qui est le lieu le plus sympa d'Internet, l'endroit le plus sympa d'Internet. Allez y jeter un petit coup d'œil. Et vous pouvez également trouver dans les notes de l'émission ou sur notepatrick.com, bien sûr, le Patreon, patreon.com/rdvtech, pour venir nous soutenir, me soutenir, si vous le souhaitez, si vous en avez l'envie. Et j'ajoute qu'on n'était pas en live aujourd'hui, mais on est en live à peu près tous les mardis pour faire l'émission Le Rendez-vous Tech et tous les jeudis pour Le Rendez-vous Jeu. Donc, vous pouvez nous suivre sur Twitch. Devinez quel est le nom du compte. Dites-le avec moi. 1, 2, 3. Note Patrick. Et oui, c'est bien ça. On vous remercie de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous.